Et tu vas donc créer une famille où régnera le respect entre l'homme et la femme, où régnera un respect des enfants envers leurs parents, où régnera. Au bout d'un moment, il n'y a pas photo. Et voilà, ils comprennent très bien les gens. Ils comprennent que vous avez réussi. Et nous, on a raté. Ça prend 10-20 ans. Au bout d'un moment, l'exemple vivant vaut mieux que tous les arguments. Au début de la route, tu vas montrer qu'on est épanoui, qu'on est heureux. Tes parents, après tout, ils veulent ton bien. Ne sois pas, quand tu rentres à la maison, tu fais la grimace tout de suite, tu rentres dans ta chambre, tu t'enfermes à clé, d'accord. Ils vont dire, il était normal, il est devenu anormal. Ça fait du cri de la chaîne. C'est pas facile, comme tu dis, mais c'est ce que Dieu nous demande. On doit montrer une image belle de la Torah, comme elle est vraiment. Si ça épanouit, pourquoi tu fais la grimace? Alors c'est dur quand ça heurte notre vie, mais on doit être tolérant avec les autres. C'est le meilleur moyen de les rapprocher aussi. Mais il faut oublier de rapprocher pour le moment. Il faut simplement vivre en tolérance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a les moments où il peut y avoir des heurts, c'est lorsque la Torah m'interdit une certaine chose que mes parents veulent m'imposer. Par exemple, la nourriture, c'est un endroit assez courant de heurts. Toi, tu as certains standings de nourriture que tes parents n'ont pas. Alors, il faut savoir d'abord que chez les parents, pas manger taref. C'est clair que c'est interdit. Mais on peut beaucoup alléger la loi. Parce que Kibboud Abaim, c'est le cinquième des 10 commandements. Et nous, on fait attention de manger kasher, et pas kasher, mais c'est dans les finesses. On peut manger un kasher moins de renom, moins hyper sérieux. Je ne dis pas taref, kasher. Mais un kasher, on peut dire, par exemple, tu prends, on sait que l'organisation de kashrout, elle est super top, un peu moins, encore un peu moins. On peut descendre dans les niveaux de nom d'organisation de kashrout. Ça reste en kasher. Hein. Pardon ?
Les chameaux ?
Les chameaux, il n'y a aucun problème. Le lait chameau, d'accord. Le problème ashkenazim, des grands poskim ashkenazim, que le rabbi Moshe Feinstein, il dit qu'on peut, dans les pays où la législation du pays interdit de façon extrêmement grave l'utilisation d'autres laits que du lait de vache, il n'y a aucun problème à avoir du lait non chameau. Les Bnei Torah, les gens qui sont plus sérieux, qui fassent attention quand même. Les Sfaradim sont plus marmérim là-dessus, ils interdisent, mais tous sont d'accord que s'il y a une nécessité, par exemple pour un enfant, pour parler du maternat, comme il faut du lait en poudre, etc., s'il y a une nécessité, on peut alléger. Les parents, c'est pas nécessité, c'est le cinquième du 10 commandements. Cinquième du 10 commandements, c'est la barre extrêmement haute du respect des parents. Si le parent te dit, fais une chose qui est contre la Torah, alors la Torah est très claire, elle dit qu'il faut écouter l'élève ou le prof. Le prof, c'est Dieu. L'élève, ce sont mes parents. Donc, entre l'élève et le prof, j'étudie, j'écoute. Le prof, c'est Dieu. Donc, je dis à mon papa, à ma maman, désolé, mais je ne peux pas. Ils vont hurler, tant pis, on ne peut rien faire. Maintenant, si je peux alléger tout ce que la Torah va autoriser en cas de nécessité de force majeure, les parents, c'est un cas de force majeure. Quand on autorise dans ces cas-là, on peut et on doit utiliser mais attention, je dis bien, tant que c'est permis en cas de nécessité ou de force majeure. Pas dire qu'on a autorisé ce qui n'est pas permis. Ce qui n'est pas permis, même de façon extrêmement légère, mais c'est interdit, point barre, terminé. On ne discute pas là-dessus.
Et au niveau des...
Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Bon, je ne vais pas donner trop d'exemples. Je vais donner un exemple, pas du permis, parce qu'après, on ne biche pas trop. Chaque cas est un peu... Mais au niveau de l'interdit, il y a un problème de Tivlat Kilim, que les ustensiles de verre et de métal doivent être trempés au mikvé. Il n'y a pas de parade. Il n'y a pas de parade. Si on nous sert un plat qui a été cuisiné dans une casserole cachère ou qui est servi dans un plat de verre cachère, je peux manger ces aliments, mais à condition que moi, quand je le mange, je n'utilise pas des couverts ni assiettes qui soient de métal ou de verre non trompé au mikvé. Même si ça a été cuisiné dans des ustensiles qui ne sont pas trompés au mikvé, j'ai aucun problème. Ce n'est pas que c'est communicatif que le nom kasher se transmet. Le plat, il est permis. Je n'ai pas le droit d'utiliser. Moi, mes parents, ils peuvent. Enfin, ils peuvent. D'après le droit, ils ne peuvent pas, mais c'est leur affaire. Ça ne crée pas de problème chez moi. La nourriture reste kasher. Je dois simplement, moi, m'en nourrir dans un plat qui est soit trempé, soit ni en métal, ni en verre. Donc en plastique, en bois, en poterie, en porcelaine, toutes ces choses-là, je peux manger. D'accord ? Donc, on dira à papa et maman, ils feront en sorte d'acheter de la viande cachère. Au pire des cas, tu iras même toi-même l'acheter, d'accord ? On a reçu une casserole cachère à la maison, et tu mangeras toi, ou bien tu dis à ta mère, maman, t'en fais pas, tu pars à la maison 2 heures, je m'occupe de tout, t'appelles une organisation qui s'occupe de tremper, ou tu prends toi-même, tu vas tout tremper à la rivière, au mikvé, à la mer, n'importe quoi, tu nettoies tout, tu remets tout, tout comme il faut bien à la place, tout devient cachère à la maison. Si, et c'est le cas souvent, la mère ne veut pas qu'on touche à sa cuisine, en aucun cas on va tremper une seule fourchette de ma maison, d'accord ? Alors, tu prends tes plats à toi, tu les trempes au mikvé. Ou tu manges dans des matériaux, comme je l'ai dit, en plastique, en tout sauf verre et métal. Ça, par exemple, c'est une lacha qui est des rabanan. Enfin, pour le métal, c'est d'oraita. Et pour le verre, c'est des rabanan. C'est pas manger du porc, mais les gens ne savent pas, mais ça, il n'y a pas de parade. Tu comprends, c'est des choses. Il n'y a pas de solution. Je suis obligé de manger. Tout le monde mangera dans les beaux. On a un beau couvert pour le soir du céder en argent, etc. Moi, je mange dans mon truc en plastique. D'accord ? Ok, c'est pas si grave. Là, il faut faire preuve de tolérance de la part des parents. Expliquer que c'est pas parce que je mange dans un plat différent que je ne respecte pas votre façon de faire. On se respecte, on est tolérant et le shalom passe avant tout. Répétez ça souvent, c'est un bon argument. Le shalom passe avant tout.
Et comment faire aussi au niveau de la discussion voilà, nous, on est un peu Torah, puis bon, c'est pas qu'on a tout lâché de ce qu'on avait avant.
Ouais.
Mais c'est que, voilà, par exemple, ils vont parler de quelque chose comme l'actualité, même pas ce qui se passe en Israël, mais là, une actualité banale.
Je vais t'expliquer une chose très, très. Je vais t'expliquer une chose qui est très importante. Tu es le fils de tes parents. Tu ne peux pas, au nom de la Torah, dire c'est fini parce qu'on n'a plus les centres d'intérêt.
Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de parler, mais c'est comment moi essayer de.
J'ai compris.
Avec les frères et sœurs aussi.
Il faut, la famille reste la famille, et il faut cultiver et maintenir une relation. Relation, ce n'est pas qu'on n'est pas en conflit et c'est tout. Ça, c'est un cessez-le-feu. Ce n'est pas une relation. Une relation, c'est qu'il y a des échanges. Maintenant, toi, tes échanges, ils sont toujours Torah, parce que le reste ne t'intéresse absolument pas. C'est tout à fait inintéressant. Mais eux, tous leurs échanges ne sont que dans l'inintéressant et pas dans ce qui t'intéresse toi, dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Eux, on va dire, ils sont dans ce domaine-là, toi, tu es dans ce domaine-là. On peut plus parler. Ce qui t'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Il faut descendre un peu. Eux, s'ils veulent monter un peu, c'est encore mieux, mais on pas trop leur demander. On va demander à toi de faire l'effort. Tu descends un peu et tu rentres dans un domaine qui est le domaine du permis. S'il parle de la dernière actrice de cinéma et trucs comme ça que tu ne peux pas écouter, d'accord ? Alors tu n'écoutes pas et tu vas discrètement aux toilettes, d'accord ? J'ai un besoin pressant, excusez-moi. On peut sortir, etc. D'accord ? Mais ça vaut la peine. Ce n'est pas si grave d'écouter, de réagir. J'ai vu des grands de Torah qui, chez eux, chaque seconde, c'était Torah. Avec des gens qui venaient visiter, des gens du peuple comme ça, ils parlaient de tout et de rien pendant une heure de repas. Une heure de repas, de tout et de rien, comme si... Je comprends pas. Et kadosh. Non. C'est un savoir-vivre, savoir descendre au niveau des intérêts de la personne avec qui je suis maintenant en relation et parler de ce qui l'intéresse à lui. Nous aussi, bon, avec nos parents, frères et sœurs, c'est la famille. Les parents, c'est... La Gemara, elle dit, Ashrei lo chaman, heureux celui qui n'a pas vu ses parents, l'orphelin. Tellement l'exigence du respect des parents, elle est haute, cruciale. Crucial. C'est extrêmement important. Alors, quand tu demandes maintenant de parler de tout, parle de foot, où est le problème ? Parle, je ne sais pas moi, n'importe quoi.
Politique,
l'astronomie, découvertes scientifiques, pourquoi ? Pourquoi pas ? C'est pas interdit.
Fien. Vous avez dit, il y a deux types de réactions qu'on observe. On observe soit une teshuvah de la part des parents ou de la famille. D'ailleurs, il y a écrit qu'à la fin des temps, ce sera les enfants qui feront faire teshuvah aux parents. Et ça, c'est vrai, c'est constatable. Ou soit des cas extrémistes, extrêmes.
Mais, et toutes les variantes entre les deux extrêmes.
Mais
toutes
les... Là, justement, par exemple, un des parents qui est tellement ancré dans la Touma, par exemple dans l'impureté avec une Goya et compagnie, que pour lui, ben, c'est pas possible de faire teshuva. Donc du coup, ben, il fait un peu l'autruche, en quelque sorte. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'aime pas l'enfant, qu'il n'a ni une réaction.
Il aime l'enfant. Il aime
une relation de Teshuva. Enfin, ni une réaction, pardon, de Teshuva, ni une réaction.
D'habitude, celui qui est loin de Torah et qui ne réagit pas de façon virulente à la Teshuva de son fils, il y a deux solutions. Ou il a une grandeur d'âme, il peut accepter une différence qui est proche, bien qu'elle dérange, mais il dit rien parce qu'il est tolérant. C'est une très grandeur d'âme, une très grande grandeur d'âme. Ou bien il est tellement loin de Torah, il est tellement dans la Touma, comme tu dis déjà, que pour lui, tu fais ce que tu veux, tu es heureux, ça ne m'intéresse pas. Ça ne le remet même plus en question. Comme j'ai dit au début de mon cours, chacun de nous a une neshama juive, qui l'appelle. Maintenant, cet appel-là, chez ceux qui sont loin de Torah, ils le refoulent. Et quand tout à coup, dans la réalité, on voit quelqu'un qui rappelle cela, ça dérange, parce que ça réveille en moi cet appel. Donc je commence à haïr cette personne qui rappelle chez moi les choses que je veux refouler. Mais si maintenant on a complètement atrophié l'appel de la neshama, ça ne fait plus rien. Quelqu'un maintenant, il devient religieux, bon, tu es comme ça, tu aurais pu être Hare Krishna, tu aurais pu être bouddhiste, tu aurais pu être... fais ce que tu veux, mon fils, tu es heureux, je suis heureux pour toi. C'est-à-dire que ça, au niveau de la neshama juive, c'est pas mal atrophié. Ou une grandeur d'âme, ou atrophié, ou des fois les deux. On peut avoir une grandeur d'âme en étant très loin de Torah aussi. Ou il la joue comme ça. Il a vu un cours de Rav Tsharia qui dit qu'il faut la jouer grandeur d'âme et tout ça, et il la joue grandeur d'âme, d'accord. Il est bouffé à l'intérieur. Il ne veut pas le montrer parce que ça serait trop dur pour lui de remettre en question, etc. Donc il la joue bien. Oui.
Souvent, chez la famille où la cachoute elle est plus basse.
Alors, chez les parents, on peut baisser, pas chez les autres. Baisser tant que c'est cachère, mais baisser.
Même pour le
chaleur. Avec les autres, non. Les parents, c'est qui vous l'avez. C'est dit pour les parents. C'est où?
Non, frère et soeur non plus.
Non. Non.
Et si les parents, ils veulent qu'on y aille
On va. Et alors, il faut bien se connaître en cache-route, voir comment naviguer. Ce qu'on peut, ce qu'on peut pas. C'est-à-dire, on salue son assiette, on goûte. Il faut connaître quels sont les dangers, de quel aliment. C'est compliqué.
Ça reste cachère quand même.
Si ça reste cachère, ça dépend de qui, quoi, comment. Il faut savoir quels sont les dangers de quoi. Il faut se connaître en cache-route bien, appeler un rave, spécialiste. Voilà, je vais m'attendre des gens non religieux, sur quoi je mets, spécialiste en cache-route, dans le pays dans lequel on est. Il y aura la viande comme ci, il y aura des légumes comme ça, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux ne pas manger. Il te dira, voilà, ça c'est un danger comme ci, ils sont au courant de tout ce qui se passe, ce qu'il y a le marché. Il te dira sur quel point tu peux alléger, sur lequel tu ne peux pas alléger. Et là, tu manges beaucoup de ce plat délicieux alors qu'il n'est vraiment pas bon, parce que c'est ce qu'il mange cachère. Après, tu es rassasié, tu salies ton assiette un peu des autres choses. Tu peux dire. Ça, tout dépend du contexte, mais ils peuvent comprendre qu'actuellement, tu as un standing de cache-route qui n'est pas le même que le leur. Tu respectes tout à fait leur homosexualité. Vous mangez cachère. Vous mangez cachère.
Souvent, ils ne comprennent pas. Alors.
Vous mangez cachère, aucun problème. Moi, comprenez, il y a plusieurs niveaux. Moi, je veux plus, c'est tout. C'est cachère. Moi, je veux plus. Voilà. C'est pas... C'est vous mangez taref, tu ne manges pas, c'est sous-entendu, vous mangez taref. Ça, ils se sentent blessés. Vous mangez cachère. C'est super cachère. Aucun problème là-dessus. Je veux plus. Je veux plus. Et là, il faut leur expliquer. Hein. J'ai quelques cours sur la cache-route, j'explique cela. Je n'ai pas le temps maintenant, mais il faut comprendre que ce n'est pas le tampon cachère qui rend cachère. Le tampon cachère, il dit qu'il y a une surveillance. Plus l'organisme qui donne la cache-route, il est sérieux, plus la surveillance, elle est grande. Mais on n'est jamais certain que c'est complètement cachère. Jamais certain. Pour être certain, il faut que je plante des tomates chez moi à la maison. D'accord? On n'est jamais certain. Simplement, on limite les risques. Alors tu leur dis, écoutez, vous prenez un risque de 1 sur 100. Moi, je ne veux pas prendre ce risque. Je prends un risque de 1 sur 1000. Ouais, ils comprennent. Dernière question, après on s'arrête.
Une petite raison sur ce qu'on avait dit avant. Quand vous dites donc de se mettre à leur niveau, entre guillemets, et de parler voilà, de tout et de rien.
Ouais.
Ça, c'est ce que moi, quand j'essaie de faire. Mais ils voient très bien que je joue la comédie.
Ça fait rien. Qu'est-ce que je peux faire de plus?
Et après, ils peuvent dire, en fait, non, tu t'en fous, etc.
Joue bien, essaie de jouer bien. Et puis, ouais, oui, écoutez, non, ça m'intéresse moins, c'est vrai. Mais sinon, j'en parlerai pas du tout. Ça m'intéresse quand même un peu. Bah, ou Radona, il va m'en gagner.